Voilà, ben on va commencer tout de suite, hein, si vous le voulez bien. Donc on va quand même lire la section en entier pour ne pas perdre quelque chose au passage pour la compréhension. Donc on va lire au chapitre 7, les 16 premiers versets, même si on s'arrête avant. Ça vous va ?
Oui.
Voilà, un volontaire, un homme.
Le grand prêtre demande à Étienne ce qu'on dit de toi. Est-ce que c'est vrai ? Étienne répond, « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu glorieux s'est montré à Abraham, notre ancêtre, quand celui-ci était en Mésopotamie. C'était avant qu'Abraham parte habiter à Aram. Dieu lui dit, « Quitte ton pays et tes familles et va dans le pays que je te montrerai. » Alors Abraham a quitté le pays des Babyloniens et est allé habiter à Aram. Ensuite, le père d'Abraham est mort. Et Dieu a fait passer Abraham de Haran dans le pays où vous habitez maintenant. Là, Dieu n'a donné aucune propriété à Abraham, pas même un petit morceau de terrain. Mais il lui a fait cette promesse, « Je te donnerai ce pays, tu le posséderas, toi et tes enfants après toi. » Pourtant, Abraham n'avait pas d'enfants. Dieu lui a dit, « Les enfants de tes enfants vivront dans un pays étranger. » Là, ils deviendront esclaves et on leur fera du mal pendant 400 ans. Mais Dieu a dit aussi, « Moi, je jugerai le peuple qui fera d'eux ses esclaves. Ensuite, ils partiront et ils viendront m'adorer ici. » Puis Dieu a fait alliance avec Abraham. Le signe qui montre cette alliance, c'est la circoncision. Ainsi, Abraham a circoncis son fils Isaac une semaine après sa naissance. Isaac a circoncis son fils Jacob, et Jacob a circoncis ses fils, nos 12 ancêtres. Nos ancêtres ont été jaloux de leur frère Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec Joseph. Il l'a délivré de toutes ses souffrances. Il lui a donné la sagesse pour parler au Pharaon, au roi d'Égypte, et il lui a donné aussi d'être agréable à ce roi. Celui-ci l'a nommé gouverneur d'Égypte et responsable de toutes ses affaires. Voilà qu'il y a une famine dans toute l'Égypte et tout le pays de Canaan. Les gens souffrent beaucoup et nos ancêtres ne trouvent plus de nourriture. Jacob entend dire qu'il y a du blé en Égypte et il envoie nos ancêtres une première fois. Quand ils y vont pour la deuxième fois, Joseph se fait reconnaître par ses frères. Alors le roi d'Égypte apprend quelle est la famille de Joseph. Joseph envoie chercher son père, Jacob, et toute sa famille. En tout, il y a 75 personnes. Jacob vient donc en Égypte et il meurt là. Et nos ancêtres aussi. On transporte leur corps à Sichem et on les enterre dans la tombe qu'Abraham a achetée avec de l'argent au fils de Hamor à Sichem.
Ok.
Qu'est-ce que c'est comme traduction ?
Parlons de vie.
Ah oui.
Mm-hmm. Ouais. Voilà, donc on va se contenter, je dirais, de la première partie de la première partie. Non, mais ça peut se découper comme ça, effectivement. À partir de Joseph, on entre dans une autre dimension de l'argumentation. Mais avant ça, ce serait intéressant de voir si vous aviez l'une ou l'autre application pour la fois dernière sur la partie donc qui concernait ministère et arrestation d'Étienne. Si vous est venu l'une ou l'autre idée, l'application qui colle le plus à la réalité de la péricope, c'est certainement qu'il faut apprendre à gérer pacifiquement nos différends ou nos conflits en Église. Bon, sur l'exemple, justement, de ce qui a été fait par les apôtres, c'est clair. Aussi, peut-être se dire que les doctrines, ou en tout cas les interprétations qu'on peut faire en Église, interprétations des réalités bibliques, elles peuvent être différentes. Ça fait partie des réalités, parce qu'elles dépendent finalement de notre lecture, de notre capacité à étudier le texte, mais aussi de la compréhension qu'on a des textes de la Bible. Hein. Donc voilà, on n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes options, on a tous des backgrounds différents, hein, culturellement différents même parfois. Donc la compréhension du texte est fonction un peu de tout ça aussi. Et puis sur la fin de la péricope, je pense qu'on pourrait aussi ajouter que la manipulation et la propagande n'ont pas vraiment leur place en Église. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens de gérer nos différences, le dialogue d'une part, l'étude, la recherche de la conciliation, et aussi tout simplement, s'il le faut, la séparation. Parfois, on ne peut pas aboutir à un compromis ou à une réconciliation, alors il vaut mieux se séparer, ça a été le cas de notre apôtre Paul, donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de honte à devoir nous séparer si on ne peut pas se comprendre et s'entendre. Quand je dis pas de manipulation ni propagande, bien sûr encore moins s'en prendre aux mains pour agresser l'autre physiquement. Hein, voilà. Et peut-être une dernière application serait plutôt de rechercher dans nos rapports avec les autres la sagesse. Et c'est difficile pour nous tous. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas quelqu'un qui est naturellement sage. La sagesse étant un attribut quand même hautement spirituel. Qu'on soit capable de maîtrise de soi, c'est une chose, qu'on soit sage en est une autre. Et agir avec sagesse et vivre avec les autres avec sagesse. Donc voilà peut-être pour quelques applications.
Moi, je ne sais pas si c'est ce passage-là, je suppose que je ne me suis pas trompée. J'avais mis aussi ne pas juger.
Oui.
Hein, au niveau de.
Ça fait partie.
Que la langue peut avoir des grands dégâts, même quand on fait une petite chose, ça peut avoir des conséquences.
Et ça en a quand on voit les accusations portées contre Étienne. Hein, c'est assez gratiné, quoi. Voilà. Alors, avec cette nouvelle péricope du début du chapitre 7, que j'avais baptisé d'Abraham au patriarche, hein, deux points, le déni du blasphème contre Dieu, avec cette péricope, nous entrons dans le long discours de défense prononcé par Étienne devant le Sanhédrin. Cela fait suite aux accusations graves, parce que quand même c'est de l'ordre du blasphème, je le rappelle, dont il vient d'être l'objet. Et je rappelle aussi que blasphème égale, en général, peine de mort. Il le fait sous une forme bien juive, sous la forme historique. Donc très souvent, les discours, notamment de défense, devaient faire un espèce de, comment on va dire, de recension des faits historiques, etc., comme il était de coutume chez les Juifs. Et il faut noter cependant, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'entièreté du discours jusqu'au verset 53, il faut quand même noter que ce long discours, qui est sans doute le plus long rapporté dans le livre des Actes, n'est pourtant pas terminé. Donc il n'est pas achevé. Il est incomplet puisqu'il a été interrompu plutôt violemment, il nous manque une partie du raisonnement ou de la défense d'Étienne devant le Sanhédrin. On peut imaginer peut-être que s'il avait pu terminer sa défense, il aurait acquis peut-être quelques points pour éviter la peine de mort. Mais là, bon voilà, ça se passe sous l'emprise de la colère pour ceux qui l'ont accusé. Et pour le Sanhédrin, donc le résultat, nous le connaissons, ça va mal se terminer. Donc, plaidoyer incomplet, qu'on peut diviser en tant que tel, en trois grandes parties, on va dire, celle qu'on survolera en partie aujourd'hui, donc les versets 1 à 16, qui concernent surtout Abraham et les patriarches, et puis la section 17 à 43, qui, elle, tourne autour de Moïse et de la loi. Donc, je vous rappelle que c'est les chefs d'accusation, il y répond. Et enfin, les versets 44 à 53, c'est-à-dire le lieu où il faut rendre un culte à Dieu, sous-entendu à Jérusalem, bien entendu, dans le temple. Voilà pour une petite introduction, pour que nous nous situions dans ce discours avec ce qu'on attaque aujourd'hui. Alors, voilà. Verset 1, qu'est-ce qui se passe?
On lui donne la parole, en fait.
Voilà. Donc c'est quand même à peu près logique, surtout à l'époque où il n'y a pas d'avocat, pas spécialement d'avocat, on était invité à se défendre devant les accusations, en l'occurrence ici de plusieurs témoins. Nous, on sait que c'est des faux témoins, mais bon, voilà. Juridiquement parlant, il suffit qu'il y ait deux témoins qui portent la même accusation pour que ça prenne une procédure judiciaire et qu'éventuellement on punisse, on sanctionne la personne. Ici, il s'agit de blasphème, je le rappelle, donc l'enjeu est assez important, et le grand prêtre est bien obligé d'observer les procédures, et donc de renvoyer la parole à Étienne, cette fois-ci, pour qu'il puisse, alors, répondre aux fausses accusations qui ont précédé dans ce que nous avons étudié ensemble déjà. Et il commence donc son discours de défense, par ces quelques mots. Je pense qu'il avait posé une question là-dessus. Donc, frère et père, écoutez. Et je vous avais posé la question de savoir pourquoi le mot père est utilisé ici, dans ce contexte. Bon, je signale au passage pour info que le texte dit homme, frère et père. Homme, andrés, donc en grec, c'est uniquement des hommes masculins qui sont présents, et donc il s'adresse à eux. Mais alors, père.
C'est pas parce qu'il parle des patriarches et tout ça, de ceux qui, sont, qui les ont précédés.
Non, c'est les pouvoirs religieux, non ? Non plus.
Est-ce qu'il ne veut pas parler de l'ancienneté ? L'ancienneté est très importante en Israël.
Voilà. Voilà. Ceux qui siègent au Sanhédrin, ce n'est pas des jeunes. C'est des gens qui ont vécu, qui ont de l'expérience en général. Et il se trouve qu'Étienne, ici, je pense, essaye de marquer le coup aussi. Autant les autres ont dit un tas de cochonneries sur lui, de fausseté, de mensonge, autant lui veut rester super droit. Donc il les interpelle en tant que frères, frères dans le judaïsme, frères dans la perspective du même Dieu devant lequel ils se situent tous. Et il rajoute « père » comme une sorte de marque de respect, finalement, pour les membres du Sanhédrin, qui, nous le savons, sont plus âgés qu'Étienne, puisque Étienne était assez jeune. Et bien sûr, cette manière d'être respectueux devant ce qui n'est pas respectable, parce que bon, les accusations et le Sanhédrin lui-même, on le sait, déjà plutôt opposé à la nouvelle voie, eh bien, ça dénote quand même, avec la manière dont il a été traité jusque-là, d'une part son arrestation, manu militari, deuxièmement, de fausses accusations devant la cour qui doit juger de son cas, et donc lui, il reste extrêmement correct vis-à-vis des membres du Sanhédrin, et puis il ajoute « écouter », qui est en fait une formule pour capter l'attention. Écoutez, ça veut dire ce qui va suivre est important, et je vais vous dire ce que je suis et ce que je crois finalement. Donc on retrouve d'ailleurs ces formules un peu plus loin dans les Actes avec Paul. Donc déjà en quelques mots, on sent le caractère apaisé et respectueux d'Étienne devant ce Sanhédrin qui ne lui veut pas du bien nécessairement. Et puis il poursuit, alors, je vous avais signalé, je crois, dans les questionnaires, qu'en fait, c'est pas ni le Dieu glorieux, ni le Dieu de gloire, puisque le grec dit bien le Dieu de la gloire, ce qui est quand même sensiblement différent. Donc on va essayer de comprendre pourquoi nos versions préfèrent ajouter un adjectif plutôt que de tenir compte de l'expression grecque utilisé. En effet, le grec utilise deux articles, le Dieu de la gloire, qui implique donc que la gloire est ce qui convient parfaitement pour décrire le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël est effectivement le Dieu de la gloire, le Dieu glorieux. Alors là, on peut utiliser l'adjectif éventuellement. Mais Étienne veut démontrer une chose en utilisant ce vocabulaire. Dès le début de son discours, il affiche sa croyance en Dieu tel qu'il est. Donc, le même Dieu que les autres, le même Dieu que les anciens d'Israël, que les membres du Sanhédrin, que ses frères juifs en général, il ne croit donc pas en un autre Dieu que ce Dieu-là. Mais en fait, il démontre dans son discours l'attachement la vénération qu'il a, voire même l'amour qu'il a pour le Dieu de son peuple, le Dieu du peuple dont il fait partie lui-même. Et donc il marque un point, je pense, il marque un point dès le début de sa défense, qui est de dire « Vous dites que je blasphème, mais moi je crois au même Dieu que vous. » Et je crois que ce Dieu existe, etc. Enfin, il y a tout ça qui est contenu là-dedans. Et puis on peut se demander, on peut se demander aussi si cette expression n'a pas un lien avec la manière, puisqu'il va parler du début de l'histoire et des patriarches, etc., si ce n'est pas une manière de parler du Dieu qui apparaît, et du Dieu qui apparaît de manière lumineuse. Alors, par exemple, versus les ténèbres, par exemple. Mais généralement, quand Dieu apparaît dans la partie du Pentateuque, et notamment avec les patriarches, c'est souvent sous la forme d'une lumière éclatante ou d'un feu. Alors, on a par exemple quelques exemples types. Hein, dans Exode 3, les versets 1 à 7, on a l'histoire bien connue de Moïse et du buisson ardent, un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas, où Dieu parle à partir de ce buisson. Il est donc Dieu, si vous voulez, symbolisé ou caché par cette flamme. On a aussi, toujours avec Moïse, dans Exode plus loin, au chapitre 24, dans les versets 15 à 17, la révélation d'un Dieu au mont Sinaï. Alors, les Israélites voient la fumée, mais en réalité, c'est la fumée d'un feu. Et puis Moïse, qui est en face à face alors avec ce Dieu, est dans cette proximité de la lumière. Et puis ça se répète alors dans Exode 33, puis 40, notamment dans 40 avec l'histoire de la tente de la rencontre. Là, je pense que tout le monde se souvient bien de la colonne de fumée le jour, qui est lumineux la nuit. Et puis on pourrait citer d'autres textes, notamment dans les psaumes, mais on va s'arrêter là pour les citations. Ce sont d'ailleurs des choses qui sont reprises dans le Nouveau Testament par Paul et par Jacques, hein, cette idée que Dieu est un Dieu glorieux, le Dieu qui fait la lumière sur l'humanité. Et donc, je parlais d'apparition, et justement, la formule qui suit dans le texte...
Et en même temps, je peux te poser une question. Oui. C'est Irénée, ça, c'est un père de l'Église, mais il dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Donc, et la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu. Je trouve que c'est un petit peu, ça ne rejoint pas vraiment ce que tu viens de dire de la gloire, si. Ça met plus l'accent sur l'action de Dieu sur l'homme, tandis que ici, c'est juste une manifestation de Dieu qui n'arrive.
On pourrait parler de théophanie, si tu veux, de révélation lumineuse, de la révélation de la présence de Dieu dans une relation de face à face avec l'homme, ou même devant le peuple. Hein, au mont Sinaï, on imagine bien la situation. Quand il est parlé du tonnerre sur le mont Sinaï, il devait y avoir des éclairs, de la lumière, quelque part.
Moi, la gloire, je l'associe plus avec le poids.
Oui, oui, bien sûr, en hébreu. Oui, ce qui fait poids.
Ça peut être plusieurs choses. Moi, ce que j'avais lu dans un commentaire, mais je ne sais plus lequel, pourtant j'ai lu aujourd'hui, désolé, c'est que quand ils utilisaient la gloire, c'est aussi pour représenter l'ensemble des caractéristiques glorieuses de Dieu. Donc, le tout, toutes ses qualités, je ne sais pas ce que ça vaut.
Oui, ça rejoint l'idée de poids. Qu'est-ce qui fait le poids d'un homme ou le poids de Dieu? C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il peut révéler. Bon, en l'occurrence, ici, on a, et on le verra dans la suite du texte, on a la présentation d'un Dieu qui se tient en rapport avec les hommes, et qui va d'ailleurs inviter Abraham à le suivre, hein, puisque c'est dans la suite du texte. Ouais. Ok. Donc ce Dieu-là, comme il le dit dans son discours, est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie. Et je vous avais posé une question, mais qu'est-ce que ça a à faire ici, cette histoire d'apparition? Qu'est-ce que ça veut dire un Dieu qui apparaît?
Dieu qui se révèle, qui se fait connaître, qui désire communiquer.
Exactement.
Et qui dit ce qu'il veut, ce qu'il désire que son peuple
fasse. Oui, tout à fait. Ou qui donne même des ordres à certains moments. Oui. En tout cas, un Dieu qui apparaît à qui il veut, quand il veut. Voilà, c'est tombé sur Abraham en Mésopotamie. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Il se révèle finalement aux hommes. On pourrait presque ouvrir une parenthèse ici. C'est toujours Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. C'est rarement l'homme qui cherche désespérément Dieu. Hein, donc très souvent, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que Dieu se révèle et nous permet alors de le rencontrer.
Mais Dieu apparaît. Il apparaît sous forme de lumière, sous forme de, hein, de buisson ardent, tu l'as dit, de choses comme ça, mais jamais en tant que comme un autre apparaît. Quoi, hein.
Ah, ça dépend. Si tu tiens certains textes de l'Ancien Testament, oui, l'ange de l'Éternel ou les anges qui se rapprochent d'Abraham, ils sont...
C'est pas Dieu. Ouais, mais c'est pas
Dieu. Ben justement, le problème de l'hébreu, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est la forme matérielle, si vous voulez, sous laquelle on peut rencontrer Dieu. Mais c'est quand même l'Éternel qui est là. Et on pourrait d'ailleurs, si on relisait des textes sur Abraham, et en particulier au niveau de l'annonce à Sarah qu'elle va avoir un fils, etc., etc., on voit bien que l'ange, d'un coup, se transforme en Dieu, quoi, et vice-versa. C'est comme l'ange qui se bat avec Jacob.
Oui,
c'est qui?
C'est Dieu.
Ben, c'est Dieu, manifestement, qui renomme. Donc, c'est pas si simple de dire, à partir de l'Ancien Testament, que ange n'est pas Dieu.
C'est parfois nécessairement Dieu. Ça l'est parfois, mais pas toujours.
Ah oui, effectivement. Donc, il faut peut-être faire la différence entre le côté ange de l'Éternel et les anges qui sont envoyés avec une mission précise, faire telle ou telle chose sur la terre, par exemple, ou intervenir dans l'histoire des hommes. Voilà. Enfin, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'il fait donc bien appel toujours au même Dieu d'Israël, un Dieu qui apparaît, un Dieu qui parle aux hommes, un Dieu qui demande, un Dieu qui suggère, qui conseille ou qui ordonne. Et c'est toujours Dieu qui a l'initiative, c'est lui qui nous précède, comme il le précédera dans le désert d'ailleurs.
Et puis il rejoint la foi des autres, quoi, des Juifs, quoi. Abraham est notre père dans la foi, quoi.
Oui. Mm-hmm.
Mais pardon, c'était toi la première.
Tu dis que les hommes ne cherchent... Enfin, c'est rare quand l'homme va à la rencontre de Dieu. Je trouve qu'il y a des hommes qui ne vont pas à la rencontre de Dieu. Moi, j'avais l'impression que certains hommes ou femmes cherchent vraiment Dieu, qui se laissent trouver après. Enfin,
cherchent quelque chose qui puisse apaiser leur conscience.
Tu crois que c'est toujours dans ce sens-là?
Ou cherchent quelque chose parce qu'ils ont eu un déclencheur et que ce déclencheur vient de
Dieu. Oui, oui, je pense qu'il ne faut pas qu'on se perde. Dans l'idée, l'homme ne trouve pas Dieu.
Ah, c'est Dieu qui se
tout seul.
Trouver,
oui. Ok. Donc nécessairement, Dieu a sa part là-dedans.
Ah,
et une des parts de Dieu, c'est de faire le premier pas vis-à-vis de l'homme. Et donc, quand tu arrives à la conviction que tu veux suivre Dieu ou Jésus, etc., c'est une conviction que Dieu a déjà travaillée. Donc, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Quelque chose se passe qui te permet d'arriver à la réponse, qui te permet de reconnaître Dieu, finalement, dans celui qui te rencontre. Et quand les hommes cherchent Dieu, c'est Babel, finalement. C'est ça qui se passe. Hein. On construit pour monter au ciel, pour rencontrer celui qui est au-dessus, lui ravir sa puissance, éventuellement, etc. On ne peut pas dire que l'homme cherche de manière... consciente de par lui-même, de par ses propres forces, Dieu. En tout cas, pas depuis la chute, on va dire ça comme ça. Pas depuis que nous sommes pécheurs.
Ouais. Mais toujours.
Alors du coup, oui, il y a des gens qui cherchent quelque chose, quelqu'un qui puisse les sortir de ce qu'ils ressentent qui est inadéquat, de leurs conditions misérables, même s'ils n'ont pas la conscience qu'ils pêchent.
Il y a même l'idée que Dieu a mis en nous une conscience, il travaille dans une conscience. Il y a quelque chose en nous que Dieu a créé. Mm-hmm. Et j'ai un ami qui dit, on ne pourra jamais dire, j'ai cherché Dieu, je l'ai trouvé. Mm-hmm. Mais c'est Dieu qui m'a cherché et qui m'a trouvé. Et quand on découvre cette grâce de Dieu qui sauve le pécheur, on n'a même pas le mérite de pouvoir dire « Je t'ai cherché, je t'ai trouvé, hein, voilà, mon copain. » On est vraiment abasourdi et on se rend compte, peut-être pas tout de suite, il faut peut-être du temps, on se rend compte que Dieu a fameusement travaillé dans notre vie pour qu'on puisse le rencontrer.
Mm-hmm. En tout cas, il y a toute une série de circonstances qui font que Dieu nous donne les moyens de le rencontrer.
Mais il y a quand même un acte de la part de l'homme. Il y a un geste
à faire. Une réponse, une réponse.
Mais oui, sinon...
En tout cas, ça me fait penser à ces paroles de Jésus. Hein, si je toque à votre porte, si vous ouvrez, j'entrerai.
Voilà.
Ce qui veut bien dire dans le non-dit que si tu ouvres pas, j'entre pas.
Oui, il force pas.
Voilà. Il force pas, en tout cas.
Il y a la patience, il va revenir. On le voit avec le recul, comme tu dis, hein.
Parfois on a eu plusieurs signes parfois dans notre histoire avant d'accepter, avant de nous tourner vers Dieu, véritablement en tout cas.
Tout à fait.
Des trajectoires, des destinées qui sont dans la main de Dieu.
On pourrait même dire, on n'a même pas le mérite de pouvoir dire, je t'ai cherché.
Ouais.
Alors tu me dois quelque chose. Même pas ça. C'est Dieu, on se rend compte que c'est Dieu qui a fait le premier pas.
Et comme il a dit, c'est lui qui l'a frappé.
Comment est-ce qu'il l'a fait ? Très concrètement.
J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de jalons dans la vie.
Ouais.
Et je crois qu'on pourrait, si on réfléchit bien, on pourrait se souvenir de certains jalons dans notre propre vie. Mm-hmm. Et moi, je me souviens de certains jalons aussi, où je pensais que c'était moi qui avais des aspirations, mais Dieu travaillait. Et il a permis qu'à un moment donné, je puisse être confronté au message de l'Évangile qui sauve. Que Dieu qui sauve, que Dieu vient chercher, que Dieu appelle. C'est la grâce, c'est l'élection, un mot difficile à expliquer et à comprendre, et pas dans le sens « lui oui, lui non », mais c'est l'élection de Dieu. On est choisi par Dieu.
Exactement comme Abraham, hein. Parmi tous les gens qui vivaient là en Mésopotamie, pourquoi lui ?
Oui.
Le texte ne nous le dit pas d'ailleurs, justement. Ouais. Il n'y a pas de mérite.
Non. Il est appelé lui. Nous parce qu'il nous a aimé le premier de la Bible. Et ça résume tout finalement. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est rien du tout. Hein. Parce que si Dieu est venu, c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut nous aimer, parce qu'il veut se manifester et être glorifié dans nos vies. Mais tout vient de lui.
Tout est grâce, comme on dit. Ouais. Ok. Alors, peut-être encore ajouter un petit mot sur cette apparition à Abraham. C'est quand même la première apparition de Dieu à Abraham. Autant il y avait eu Dieu dans le jardin d'Éden... Hein, qui était là apparemment quotidiennement, qui se baladait le soir à la fraîche. Hein. Voilà, là, une fois expulsé du jardin d'Éden, on est un petit peu livré à nous-mêmes et on n'a plus cette proximité. Donc ici, Dieu vient vraiment à la rencontre d'Abraham et lui donne un ordre, hein, tout simplement, qui est de quitter Ur, qui se trouve en Chaldée, donc la région en Babylonie, qui s'appelle les Chaldées. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder sur une carte.
J'ai été, mais je n'ai pas trouvé.
Okay. Oui. Enfin, oui.
Tu l'avais là-dessus celle-là ou pas?
J'ai Ur, mais c'est Ur. Hein.
Oui, ça se prononce Ur en réalité. Hein.
Oui, c'est ça.
Ok.
Donc,
Ur, c'est une ville qui se trouve près du golfe Persique. Pas très loin du golfe Persique. Tout à fait à l'est, si vous voulez. Par rapport
c'était loin, j'en ai pas si loin dans mes cartes.
Et donc, si vous en prenez conscience, vous vous appelez Abraham, et un jour, vous avez Vous avez l'incroyable expérience d'entendre quelqu'un que vous ne voyez pas vous dire « Allez, dégage de là, et suis-moi sans savoir où tu vas. » Parce qu'attention, dans l'appel à Abraham, il n'est pas encore question de lui dire dans quel pays, quel sera le pays dans lequel il habiterait, ni même qu'on lui donnerait le pays. Donc, on doit en fait se rapprocher du texte de la Genèse, dans le chapitre 11, verset 31, qui nous raconte, alors là c'est ça qui est troublant, Genèse 11, 31 nous raconte que Terah, le père d'Abraham, a décidé de partir d'Our avec sa famille pour aller en Canaan, dit le texte. Donc du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est le père qui a initié le départ? Ou est-ce que c'est le fils qui a dit à son père, « Moi, on m'a appelé, je pars. » Et finalement, qu'est-ce qui se passe pendant ce trajet? Eh bien, Terah et Abraham vont s'arrêter, et Lot, qui est avec eux, vont s'arrêter à, alors, Charan, Haran, tout ce que vous voulez, peu importe l'orthographe du mot.
Charan, il est où ici?
Alors, Charan se trouve bien plus loin.
C'est là-haut.
Bien plus loin, presque aux sources de l'Euphrate. Pas tout à fait, mais pas loin. Et donc, les routes commerciales suivaient plus ou moins le tracé du fleuve, l'Euphrate. Hein, et on remontait le plus loin possible pour pouvoir passer après vers l'autre versant, c'est-à-dire la partie Syrie, Canaan, Égypte. C'était des voies caravanières. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez estimé la distance déjà entre Our et Haran?
Oui, moi, monsieur.
Tu as pris ton centimètre.
Oui, j'ai 1,247
Combien?
1,247.
À la grosse louche, 1000 bornes.
J'ai trouvé ça sur Internet. Non, j'ai mesuré avec la lame.
Mais ça dépend,
à l'échelle, tu sais.
En fait, il y a deux routes. Il y a celle qui longe le fleuve de l'Euphrate, et il y en a une qui fait un détour par le nord et qui redescend sur Haran. Ah non, peu importe, disons entre 1000 et 1200 kilomètres. Mais alors, la question est, il faut déjà être cinglé pour suivre une voix qui te dit, allez, on s'en va, on va vers Canaan, et puis en route, bah, tu t'arrêtes finalement à Haran, Charan. Combien de temps fallait-il pour y arriver, faire ces 1000 kilomètres avec sa smala et ses chameaux et compagnie? Eh bien, au bas mot, un mois de voyage.
Qu'un mois?
Pas plus.
Oui.
Pas plus.
Un mois, 50 km par jour, à peu près, grosso modo.
50 km, tu crois que c'était possible?
Ah oui, c'était possible. Oui, 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 tout à fait. Donc, souvent avec les chameaux.
Oui.
Donc, on calcule, et c'est encore le cas des Touaregs aujourd'hui, qui partent de la Libye, voire du Soudan, pour aller jusqu'au Mali, par exemple, ou au Niger, chercher du sel. Ils font 700 bornes en un mois. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Surtout là, en plein désert. Hein. C'est pas juste le bord de l'Euphrate. C'est pas la même chose. Hein. Donc, on imagine bien que on s'arrête à la nuit tombée, on campe, on repart tôt le matin, à la levée du jour. Donc, bien sûr qu'il faut du temps pour faire ça. Mais donc, imaginons cet homme, ou tout le clan de Terah, qui s'en va, et qui s'arrête à Haran. On ne sait pas pourquoi ils s'y arrêtent. Mais en tout cas, ils finissent par y résider. Donc, contrairement à ce qui est dit en Genèse 11 du Père, ils arrêtent avant même d'être redescendus plus au sud, vers Canaan. Alors, est-ce que c'était... Alors, c'était sans doute aussi des gens plus ou moins commerçants. On le verra plus tard, si on lisait la Genèse, à propos d'Abraham, de Lot, ils sont bourrés de bétail, ils vendent du bétail, etc. Ils élèvent du bétail. Donc oui, sans doute qu'ils font commerce à Haran et puis finissent par s'y arrêter. Peut-être aussi que le père vieillissant n'était pas trop bien pour poursuivre un voyage à 50 bornes par jour. Donc en tout cas, ils se sont arrêtés. Et puis on nous dit, à un moment donné, que Terah va mourir là. Il sera enseveli là. Et c'est seulement là, à ce moment-là, que Abraham semble être libre de poursuivre son chemin.
Deux secondes, il y a un truc que je ne suis pas sûre de comprendre. Parce que ici, si je regarde Genèse 11, 31, ils ne disent pas que ça répond à l'appel. Ils parlent de Terak qui prie oui. Abraham. Et puis oui, après, oui. On dit, quand son père meurt, qu'il dit, va-t'en.
Oui, mais donc alors.
Mais l'appel a eu lieu avant quand même.
Exactement. Donc, okay. Alors, reprenons les choses. Dans Genèse 12, les 5 premiers versets, ouais. On voit donc bien que c'est à Charan qu'Abraham reçoit l'ordre de quitter son pays, d'accord. Bizarrement. Ouais. Alors que ce n'est pas son pays. Et donc, sans connaître d'ailleurs sa destination définitive, la tradition juive rapporte qu'une première révélation lui aurait été donnée à Our. Ce qui pourrait peut-être permettre de comprendre pourquoi Terah avait l'intention de partir en Canaan. Ceci semble en tout cas correct si l'on tient compte d'un autre texte de la Genèse, car ce n'est pas si simple, au chapitre 15 et au verset 7, où c'est Dieu qui déclare à Abraham « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Babylonie pour te donner en propriété ce pays où tu es. » Quand même intéressant. Donc il y a trois lectures possibles. Terah, qui prend l'initiative de partir en Canaan, peut-être même sans connaître l'appel de Dieu. Tu as Abraham qui aurait reçu à Our une promesse, en tout cas un agir de Dieu qui fait qu'il a été obligé de partir d'Our, à défaut de promesse ou de révélation. Et puis une confirmation, une deuxième révélation, une deuxième appellation, invocation, de Dieu à Abraham pour lui dire « Bon, maintenant, t'es libre, il faut y aller, quoi. Hein, tu continues à me suivre. » Et donc, c'est ce qu'Abraham va faire sans rechigner. Donc, on pourrait dire que c'est une lecture assez vraisemblable puisque Haran, effectivement, n'est pas le pays d'origine d'Abraham. Comment Dieu pourrait-il lui dire « Quitte ton pays, quitte ta famille » alors que la famille se trouve encore à Our. Seul son père et lui et sa femme, Sarah, et Lot sont partis. Et ils ont effectivement quitté le pays où ils habitaient, qui était leur territoire habituel. Donc voilà, il ne faut pas chercher de contradictions, mais plutôt des compléments d'informations.
Et ce qui est surprenant aussi, c'est que Haran, apparemment, c'est le frère d'Abraham et le père de Lot, et c'est aussi un lieu, quoi.
Ah, mais c'est souvent ça. Il y a souvent.
Oui, mais enfin, à quelques versets près, quoi. Oui. Dans le même passage, quoi. Mm-hmm. Mais avec plus de 1000 km de.
1000 km à vol d'oiseau, ça va vite. Et alors, bon, petit détail aussi, on peut se demander quelle était la distance entre Haran et Canaan. Bon, il y a un peu moins. Il y a un peu moins, mais on dirait à la grosse louche 800 km. Quoi. Donc, il fallait encore 16 à 20 jours de voyage après le mois qu'ils avaient précédemment effectué pour compléter cette trajectoire. Moi, je ne sais pas si on se met vraiment, nous, en tant qu'hommes modernes, dans cette configuration-là. Est-ce qu'on obéirait à Dieu ? Ou à quelque chose, si vous voulez, qui nous disait « Tiens, prends tes valises et dégage, et puis suis-moi, on ne sait pas trop où on va, mais enfin, là où on va, je te donnerai un pays, etc. etc. »
C'est quand on a la conviction. On veut dire pourquoi on est venu en Belgique, parce qu'on avait la conviction.
Oui, on était appelé pour un travail.
On est sorti des Cévennes, 1000
kilomètres. Oui, mais en une journée.
Mais bon, c'est quand tu as une conviction.
Bah oui, alors, il ne lui dit pas qu'il lui donnera le pays.
Oui, mais bon, on est venu.
C'est ça dont on ne parle jamais. C'est des gens, des indigènes, où Dieu envoie tout. Abraham et compagnie, bon, voilà, et tu seras ton pays, etc. On ne parle jamais des gens qui vivent sur place.
Il y en a très peu.
Je ne sais pas.
Comme je vous l'ai dit la fois passée, non. La Judée est complètement désertique. À part quelques nomades qui vivent avec des troupeaux, il n'y avait pas grand-chose. Et quelques villes qu'on appelle les villes-cités royales, hein, donc des roitelets, on va dire, qui avait construit des murailles autour d'une bourgade et qui résidait là. Pas grand monde en réalité. Par contre, si on descend plus au sud, donc après le Sinaï, plus vers l'Égypte, là, on commence à rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. Ce qui était aussi vrai au nord, au niveau de la Syrie actuelle, beaucoup plus de gens vivaient là. Donc Canaan est finalement pas si peuplé à l'époque, quoi.
Oui, c'est un pays de passage.
Oui, c'est donc, exactement
donc
ça.
Excellent
c'est plutôt
pour le commerce, voilà. mais pas peuplé.
Exactement. Exactement. Donc, notamment les Nabatéens, dont le royaume était du côté de Petra, pour ceux qui ont visité le site archéologique de Petra, les Nabatéens étaient des nomades qui faisaient le commerce entre l'Asie, on va dire, le sud de l'Afrique, et puis le nord jusqu'à Damas et un peu plus haut, et peut-être même jusqu'en Turquie. Donc oui, c'était des routes caravanières, tout simplement, dont une partie dans le désert en ce qui concerne la Judée. Alors, c'est vrai, donc je reprends la réponse à ta question. C'est bien à Haran, nous, qu'on lit qu'Abraham a reçu cet ordre de quitter son pays. Finalement, on s'aperçoit que c'est Dieu qui l'a fait partir de Our, que ce soit avec ou sans son père. Et finalement, pour aboutir dans un pays, Canaan en l'occurrence, qui n'est pas un pays au sens où nous comprenons le mot pays, un territoire, on devrait dire, un territoire peu densément peuplé. On ne peut pas parler de peuples qui vivent en Palestine à cette période-là. Et le sud du texte, au verset 5, nous dit, le gars, il a obéi à Dieu, il est parti, ils ont fait une petite halte de quelques années peut-être à Haran, et puis il repart vers une destination plus ou moins inconnue, il sait que c'est vers Canaan, mais point final. Et là, on lui dit, il faudra attendre un peu pour la terre promise, c'est plutôt ta descendance qui va en profiter. Je sais pas, moi, si on vous fait le coup... si vous apprécieriez vraiment. Donc Dieu a promis le don d'une terre, un pays, mais cette réalisation, la réalisation concrète en tout cas, sera plutôt pour la descendance d'Abraham. Et d'ailleurs, il lui a dit, donc c'est pas moi qui l'invente, au chapitre 12, verset 7 de la Genèse, il est clairement établi que oui, je te donne la terre promise, mais c'est ta descendance qui va en profiter. Mais ce qui est finalement assez drôle, c'est qu'il n'en a pas.
Oui,
c'est ça.
Donc, il faut déjà une sérieuse foi, n'est-ce pas ? Une foi impressionnante pour Abraham. D'ailleurs, j'aime beaucoup le texte aux Hébreux, c'est par la foi que. Une foi impressionnante pour accepter qu'une fois arrivé en Canaan, on lui dise... Mais non, ce ne sera pas tout à fait pour toi, mais pour les tiens, pour ceux qui vont suivre. Alors qu'Abraham est déjà âgé et qu'il n'a pas d'enfant, aucun enfant. Comment c'est possible ?
C'est une joie, puisque c'est un avenir.
Ah, oui.
Oui, mais donc on se rend bien compte.
Mais Robert, on te directera un enfant l'année prochaine.
avec ta femme.
Pas avec moi. Oui, mais bon, je lui dis pas avec moi.
Bien que tout est possible.
Oui, bah oui, la
oui, preuve. Oui, oui, la preuve.
Si c'est bon, tu l'as me dit.
Par l'enfant, oui.
Et on sait donc, moi c'est ça qui me sidère avec Abraham, c'est que malgré toutes ces conditions, il continue d'être attaché à Dieu, il continue d'obéir à ce que Dieu lui demande. Parce qu'il faut bien prendre conscience que c'est seulement des années plus tard, on découvre ça dans Genèse 18, au verset 10, c'est des années plus tard, entre la promesse et la réalisation de la promesse, c'est au moment où Sarah, où on annonce que Sarah va avoir un fils et puis qu'elle en a un, que la chose commence à se concrétiser. Donc quand Isaac naît, ils ne sont toujours pas en possession de Canaan. D'accord ? Donc on imagine bien le temps qu'il faut. Donc déjà, pour qu'il y ait descendance, il faudra plusieurs années. Et au moment où on lui annonce que c'est pour maintenant, ben, sa femme ne sait plus procréer, tout simplement. Et donc elle-même rigole, quoi. Rit de cette situation totalement incroyable, quoi. Et finalement, Dieu tient sa promesse jusqu'au bout, Et il fait de l'impossible le possible.
Ouais.
Et il fait en sorte que, effectivement, Abraham, au travers de sa descendance, puisse devenir possesseur. Et alors, il y a même un petit détail dans ce texte, au verset 5, toujours. Donc, il ne lui donna aucune propriété, aucun héritage, dit le grec, dans ce pays. Pas même de quoi poser le pied. Alors, peut-être qu'on va préciser deux, trois petites choses. Oui, exactement. On peut faire un petit lien avec Jésus. Donc, le texte dit, sous-entendu, alors si je traduisais plus ou moins ce qui est en grec, on pourrait dire, il n'avait pas un territoire faisant l'espace de la longueur d'un pas, si vous voulez. Il n'y a même pas de point mesuré, puisqu'un pas, c'est la mesure, vous voyez. Donc, il n'y a même pas ça pour dire, ça m'appartient. En tout cas, Dieu m'a donné cela. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que finalement, c'est tellement vrai qu'au moment du décès de Sarah, il a fallu qu'il achète la grotte de Macpella avec un petit bout de champ pour en faire une sépulture. Donc c'est pour vous dire que même ça, Dieu ne lui a pas donné l'endroit pour enterrer Sarah, qu'il a pourtant suivi, hein, qui a pourtant mis Isaac au monde, etc. Rien de tout ça. Moi, je ne sais pas, je serais Abraham, je me poserais quand même des questions sur la générosité de ce Dieu.
Est-ce qu'il a eu d'autres enfants, Abraham ? Je ne l'ai jamais su.
À mon avis, non.
Mais c'est déjà pas mal qu'il en ait.
Oui.
En tout cas, pas avec.
Pas avec
ça. Donc, Isaac.
C'est déjà formidable d'avoir.
Ben oui, oui. Mais bon. Puisqu'il avait commencé.
Alors, maintenant, on va revenir aux circonstances du discours, parce que là, on découvre deux, trois choses. Mais
je ne comprends pas que tu dis qu'il n'était pas à Canaan, moi.
De quoi ?
Parce que après deux, trois semaines, après, il est arrivé à Canaan, donc il était bien.
Oui, mais toujours comme nomade. C'est ça que dit le texte, en fait. Il veut nous faire toucher du doigt qu'il n'a pas un lieu de vie. Il n'est propriétaire de rien. Et il a un peu, si tu veux, au détriment de la location de champs ou du désert. Hein, puisque dans le désert, on peut aller faire paître ses troupeaux. De temps en temps, il pleut, il y a trois herbes, on les mange, il n'y en a plus, on va ailleurs.
Il est là comme étranger. Voilà.
Exactement, comme étranger. D'ailleurs, le texte le dit. Hein. Et donc, c'est pour ça que je voulais revenir au discours. Qu'est-ce que tout ça vient faire dans un discours de défense? Alors, on sait qu'il monte par là, qu'il croit à ce Dieu-là, au Dieu d'Abraham, de tout ce que Dieu a fait avec Abraham, ça on peut tous comprendre. Quelque part, on doit en tirer quelques réflexions peut-être par rapport à sa défense. Il exprime clairement que Dieu est toujours présent, a toujours été présent dans la vie d'Abraham, et donc de tout homme qui le vénère. Donc à partir du moment où tu es un suiveur de Dieu, tu ne peux pas être un blasphémateur, hein, sous-entendu. Et donc, la foi constante d'Abraham, malgré les circonstances, et je vais les énumérer, émigrer sur ordre, voyager au péril de sa vie, car à l'époque, ce n'est pas si simple, avec sa famille de surcroît, être un étranger à Haran, et plus tard en Canaan, comme on vient de le dire, une vie nomade, pas du tout une vie de sédentaire, la promesse d'une terre destinée à une descendance qu'il n'a pas. Pire quand il en a une, mais ça on ne le sait pas encore, la ligature d'Isaac, hein, le fameux faux sacrifice d'Isaac, si vous voulez. Le fils unique. S'il en avait 10, on se dirait OK. Puis la mort de Sarah. Tout ça, c'est quand même des circonstances assez difficiles. Eh bien, la foi d'Abraham est constante et elle s'exerce dans la précarité et la simplicité du nomade, de celui qui n'est attaché à aucun lieu, ni à des biens matériels. Et donc derrière l'exemple d'Abraham, il faut comprendre qu'il y a une manière de dire au Sanhédrin, tout ce qui était vrai du temps d'Abraham n'est pas vrai aujourd'hui dans ce que vous êtes en train d'administrer, de vivre et de faire avec moi, hein, en l'occurrence. Donc, je reviens à mon propos. En fait, on pourrait dire un homme libre. Quand tu es nomade, tu es libre. Or, on imagine bien qu'en Mésopotamie, il n'était pas nomade. Son origine est bel et bien là, c'est ce que dit la Genèse. Donc il est devenu nomade, il était sans doute déjà commerçant avec sa famille, mais là, ils élèvent du bétail en cours de route, ils vendent ce qu'ils peuvent, etc., etc. Il est libre, il est surtout libre de suivre son Dieu où il veut et quand il veut, à l'initiative de Dieu, en tout cas. Donc, on pourrait parler d'une expérience de dépendance tout à fait pleine et entière au Dieu qui appelle à le suivre, un peu d'ailleurs comme les disciples de Jésus. Voilà. Tous, ils avaient un métier. Et puis un gars vient et leur dit, bah, tiens, toi, suis-moi. Est-ce que c'est si simple que ça? Ben non. Et donc, moi, je fais un petit lien avec ça. Je pense qu'il y a un peu ce type d'expérience. Et ce ne sont donc ni la résidence, le fait d'habiter quelque part, le lieu, ni le confort, ni le matérialisme, ni les bénédictions, ni la présence d'une famille qui procure la foi et l'adoration, un culte rendu à l'Éternel. Et au fond, il est en train de leur dire, si vous étiez comme Abraham, puisque vous prétendez que c'est votre père, eh bien, on adore là où on se trouve. Comme en témoigne la pratique, vous le savez sans doute, de bâtir un autel là où l'Éternel se révèle. Et d'ailleurs, vous verrez, si vous relisez la Genèse, Abraham, Jacob, etc., font tous cette expérience que chaque fois que Dieu les rencontre, à un moment donné de leur vie, leur parle, leur révèle quelque chose, ils construisent très vite un autel, déjà pour signaler l'endroit, et puis ils offrent généralement un sacrifice à l'Éternel. Étrange. Pourquoi alors, sous-entendu, avoir besoin d'un lieu pour rendre un culte à Dieu, alors que c'était si simple de rester en relation avec Dieu? Mais on en reparlera plus tard, dans une autre partie du discours d'Étienne. Si ça vous va, c'est déjà pas mal si on peut comprendre
et
ça.
Et donc, pourquoi est-ce qu'Étienne relate tout ça sur Abraham par rapport au pouvoir religieux? Pourquoi qu'il...
Donc, si tu veux, il est accusé...
Pour montrer qu'eux, en quoi ils font le contraire.
Donc, lui est accusé de blasphémer. Alors que c'est plutôt eux qui ont une attitude blasphématoire en se foutant des règles de la loi et en jugeant les gens n'importe comment, hein, comme ils avaient fait avec les apôtres en les faisant flageller alors qu'il n'y avait aucune raison de les flageller. Bon, bref. Donc lui est accusé de blasphème et il leur dit « Pourtant, je crois au même Père que vous. » C'est-à-dire quelque part, je crois de la même manière qu'Abraham croyait en Dieu. Non seulement cela, mais Abraham, lui, n'a pas eu besoin de tout ce dont vous avez besoin pour dire qu'il faut adorer Dieu ici. Donc c'est quand même une critique derrière ce qu'il évoque, qui apparaît comme quelque chose d'historique, de réel pour tous ceux qui l'écoutent, qui connaissent le texte, effectivement, les textes qu'il évoque, Exode, Lévitique, Deutéronome, il est en train de leur dire, tout ça c'est du cinoche ici. Ce qui est important, c'est la relation à Dieu. Et la relation à Dieu ne nécessite aucun intermédiaire et pas de temple non plus. En gros, c'est ça. Mais entre, donc, il y a une critique voilée du système dans lequel ils sont là maintenant au 1er siècle. Et une critique surtout de l'organisation sacerdotale. Ce n'est pas tellement une critique du temple, c'est une critique de ce qu'on en fait, de ce qu'il est devenu. De par la volonté des hommes, notamment un lieu de vol, finalement, de raquettes, de voilà. Bon. Sous prétexte d'observer la loi, de sacrifier des moutons, des tourterelles, des bœufs et compagnie, quoi. Ouais, c'est pas chouette. Et puis le texte se poursuit, mais si on ne comprend pas tout, il n'y a pas de problème, j'arrête. Hein. Le texte se poursuit en parlant. Donc. Une fois qu'on lui dit, voilà, la terre, tu es arrivé en Canaan, ça sera la terre de ta descendance. Mais, d'abord, tu n'as pas de descendance, puis tu en as une, Isaac, un seul gamin. Et puis, on te dit, oui, mais plus tard, ta descendance résidera en terre étrangère. Donc, ce qui devrait t'appartenir, c'est pas encore le moment, et ta propre descendance va vivre ailleurs. un certain temps. Mais non seulement, si on va au bout de la lecture, on découvre qu'on lui dit, non seulement ils vont vivre ailleurs, mais pendant quatre siècles, ils seront réduits en esclavage. Non. Là, moi, je ne sais pas, je suis Abraham, là, c'est top. Hein, bon, jusque-là, c'était OK, mais là, non.
Mais là, Abraham ne l'a pas su, c'est une relecture.
Je pense qu'il l'entend. Attends, il faut que je retrouve le texte, je l'avais tout à l'heure.
Et c'est en Égypte qu'ils vont être.
Oui, j'ai pas d'affirmation. Oui, tout à fait.
Ça descend,
ça avance. Ben oui.
Ben oui. Je pense que c'est.
Je comprends pas qu'il parle que c'est sa descendance qui va être possession.
Ah, c'est la descendance d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob.
Oui, c'est mis comme si Dieu parlait ainsi.
Oui, oui.
D'accord.
Oui, mais.
Oui, mais. Ils sont esclaves, d'autre part.
Oui, c'est ça.
Et ils sont en possession de quoi?
Ah, ben rien, c'est après.
C'est quand Moïse a
fait Moïse.
On comprend quand même pourquoi
ils ont fait dans
le pays où ils sont maintenant.
Ça prend du temps.
Avec tout ça.
Est-ce que je vais retrouver ça?
Je laisse 15, 13.
C'est quoi?
Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce que je l'avais lu tout à l'heure.
Moi, c'est lui.
C'est où ça? C'est quel
Genèse 15, 13.
Genèse 15, 13.
C'est
avant
Isaac, mais
après
qu'il y ait eu
son... Genèse 15, 13. 400 ans, ça te fait 4 par... 400 ans. 400 années, ça te fait 16...
Génération. C'est 20 ans, une génération, ça fait beaucoup, c'est parce que ça.
Oui, les âges étaient calculés autrement, vraisemblablement. D'ailleurs, beaucoup supposent que les âges étaient calculés en fonction de la Lune et pas en fonction des années telles que nous les avons aujourd'hui.
Déjà, ça change. Bah, oui,
et puis la durée de vie était apparemment un peu plus longue. Aujourd'hui.
Mathusalem, c'était.
Donc, j'aime du coup.
Puis la Genèse a été écrite après que l'Exode ait eu lieu.
Ben, ces textes ont été écrits au fil du temps. D'abord, tradition orale, et puis écriture. Donc, je ne sais plus où j'en étais là. Verset 7. En verset 6, pardon. Donc il apprend dans Genèse que même sa descendance va vivre quelque chose qui est aussi difficile et douloureux. D'ailleurs, le texte d'Exode 12, 40 précise exactement le nombre d'années, c'est 430. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le texte qui le dit. 430 années exactement. Et pourtant, on apprend aussi en lisant la Genèse qu'il y a d'abord eu une période de prospérité en Égypte et de croissance. Oui. Donc finalement, ils étaient allés en Égypte parce qu'il y avait une famine assez importante en Canaan, qu'il n'était plus possible ni de nourrir le bétail ni les hommes. Donc, comme ça se faisait à l'époque, la plupart de ces peuples, même s'ils avaient un terroir, selon les variations climatiques, voilà, ils filaient ailleurs. Hein, c'était normal, il n'y avait pas les frontières d'aujourd'hui. La notion de nation-État, ça n'existait
pas.
C'était
les gens, c'était pas le territoire.
Donc les gens bougeaient. Et c'est comme ça qu'ils ont atterri en Égypte, d'abord pour se sauver la peau, si vous voulez, pour terminer finalement à être réduits en esclavage. Voilà.
Et en même temps, ça montre que l'alliance avec Dieu, c'est pas l'alliance avec un territoire, mais avec un peuple,
oui,
avec des personnes.
Il y a toujours en filigrane cette idée de relation personnelle à Dieu, ou de, pourrait même dire, de dépendance à Dieu, plutôt que de croire qu'on peut survivre par nous-mêmes en toutes circonstances. Quoi. Mais Dieu dit aussi, donc on a cette révélation au verset 7, que ceux qui opprimeront Israël, qui l'auront réduit en esclavage, seront eux-mêmes jugés par rapport à leur comportement. Jugés à cause de ce qu'ils ont fait, l'esclavage. L'esclavage sur une longue durée, 400 ans, l'exploitation d'un peuple, Peut-être aussi la pollution spirituelle, car vous le savez, en Égypte, c'est un peuple extrêmement religieux, avec des centaines de dieux différents, de temples un petit peu partout. Donc on peut imaginer que si on est esclave, soit d'un propriétaire terrien, soit ouvrier dans la construction, etc., etc., on est amené à découvrir comment les Égyptiens vivent et croient. Et on peut être aussi tenté quelque part, et on en a une preuve dans l'Ancien Testament, à peine sorti d'Égypte, on dit bah, finalement, si on faisait un veau d'or, ce serait pas mal. Or, ça, le veau d'or, c'est un des dieux d'Égypte. Hein. Comment peut-on être sorti miraculeusement d'un territoire pour retourner à son vomi, si je puis dire, en construisant un dieu visible à l'image de ce qu'ils avaient connu en Égypte, quoi. Donc, il faut se poser quand même des questions. Ceci étant, ce peuple qui est en esclavage, on lui promet une libération. Donc, Abraham sait que ça aura un terme. C'est peut-être d'ailleurs ce qui le conforte dans l'idée de rester attaché à Dieu. Il ne s'agit pas juste, voilà, ta descendance sera en esclavage, point final, tant pis pour eux. Ben non, c'est pas tant pis, puisqu'ils seront délivrés par Dieu lui-même de cette oppression et pourront sortir, rendre un culte d'adoration véritable. Et nous, dans notre texte, on a « Et après cela, ils sortiront et me rendront un culte en ce lieu », sous-entendu à Jérusalem, sous-entendu au temple. Or, ce n'est pas ce que le texte dit, le texte originel. Le texte parle du mont Horeb, c'est-à-dire dans la péninsule du Sinaï. Et normalement, l'idée, c'était qu'à peine sorti d'Égypte, on rendrait un culte à Dieu sur un des monts important de l'époque, voilà, pour adorer le Seigneur. Et donc on a ici dans ce discours d'Étienne une espèce d'actualisation, si vous voulez, une mise à jour de la promesse, ou en tout cas de la concrétisation de la promesse. Lui, là, il dit, ben, ici, sous-entendu Canaan, Jérusalem, le temple, disant finalement, ce qui était vrai pour les descendants d'Abraham en sortant d'Égypte est vrai pour nous ici en Canaan. Il y a un lieu pour rendre un vrai culte à Dieu. Et tout ça, ça nous prouve une chose, c'est que Dieu est toujours Dieu, et que Dieu est toujours le Dieu d'Israël, quelles que soient les circonstances, pour les fils d'Abraham en tout cas. Que ce soit la prospérité ou l'esclavage. Dans tous les cas, Dieu, on peut lui rendre un culte, être reconnaissant pour ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vrai en tout lieu. C'est ce que semble dire le texte, n'est-ce pas? Nous, on sait que le culte d'adoration devait être rendu sur le mont Horeb, pas nécessairement sur le plus haut mont à Jérusalem. Voilà. En tout lieu, que ce soit hors Canaan ou en Canaan, et en tout temps. Ce que d'ailleurs les contemporains d'Étienne, les juifs de la diaspora, vivaient déjà concrètement eux-mêmes. Donc tous ceux qui n'habitent pas en Palestine, qui sont pourtant juifs, qui adorent le même Dieu qu'à Jérusalem, devaient bien le faire sans le temple. Vous voyez ? Dans tout ça, en filigrane derrière le discours, c'est décrire comment vivaient les Hébreux depuis Abraham jusqu'à Salomon, en tout cas. Et si pas, depuis Abraham jusqu'à Moïse et l'attente de la rencontre, le prototype du temple, si vous voulez. Donc, des centaines et des centaines d'années où les hommes ont adoré Dieu sans devoir dépendre d'un lieu. Et d'ailleurs, durant l'esclavage, on imagine bien, pendant les 400 ans d'oppression, les Israélites n'ont pas eu besoin d'un lieu pour rendre un culte à Dieu, ou pour prouver son existence ou sa présence. Ce qui sera un peu moins vrai au moment où le tabernacle sera construit, donc la tente de la rencontre, à ce moment-là, on aura une visibilité, si vous voulez, du Dieu qu'on honore. Notamment la colonne de feu la nuit, oh, je vais y arriver, et la nuit et le jour. Okay. Donc, au temps du nomadisme, c'est quand même ça qui sous-tend tout le discours, la première partie de ce discours, au temps du nomadisme, sous Moïse, par exemple, le culte se joue dans une tente portative, toujours installée au centre du campement des 12 tribus. Donc les tribus étaient placées par section tout autour du lieu de rencontre, ce qui est quand même très significatif aussi. On pourrait presque dire, en paraphrasant des choses qu'on connaît aujourd'hui, une tente pour tous. Les 12 tribus assemblées autour de Dieu, pour le dire autrement. Et depuis la sédentarisation, alors, à partir de Salomon, les choses changent. Il n'y a plus un lieu ou des lieux, puisque vous savez que le tabernacle, il pouvait être ailleurs qu'à Jérusalem. Il l'a été, d'ailleurs. Hein. Il y a eu des cultes rendus ailleurs qu'à Jérusalem pendant tout un temps. Mais avec la sédentarisation, le fait qu'on s'est installé en Canaan, qu'on a construit des villes, qu'on a nommé des rois, notamment Saül, David, puis Salomon, que ces rois ont bâti un palais, pour ne pas dire un palace à Jérusalem, que David a eu l'idée que peut-être on allait pouvoir faire quelque chose pour donner un habitat à Dieu. Salomon réalise tout cela, mais on en reparlera encore dans une autre partie du discours, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais voilà qu'on bâtit un temple fixe à Jérusalem. C'est beaucoup plus restrictif qu'autrefois. Autrefois, que ce soit l'Arche de l'Alliance ou la Tente de la Rencontre, pouvait se promener sur le territoire, ça ne posait aucun problème. Et chaque tribu pouvait y avoir accès d'une certaine manière. Mais ici, avec la sédentarisation, beaucoup n'auront plus accès en réalité au temple. Tous ceux qui n'habitent pas à Jérusalem et à une vingtaine de kilomètres autour de Jérusalem n'y auront accès que très peu, quelques fois par an. Et pour les Juifs de la diaspora, s'ils assistent à une grande fête religieuse, ben ils sont déjà super contents.
Oui, maman.
Mais ça ne fait pas grand-chose, finalement. Alors, cet aspect-là, c'est aussi une critique qu'il adresse aux Juifs et notamment à ceux qui font partie de l'élite. L'aspect résidentiel du temple représente un risque d'idolâtrie pour Israël, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On peut faire du temple autre chose que ce pour quoi il est prévu. D'ailleurs, ça a existé dans l'histoire d'Israël. Il y a eu même des rois qui ont eu la prétention de jouer aux prêtres, d'entrer dans le Saint des Saints, etc., etc. Donc on voit bien que ce n'est pas une garantie, le temple. Ce n'est pas une garantie d'orthodoxie. On peut en faire autre chose. Et en même temps, c'est aussi un enjeu assez important de pillage ou de profanation. Donc chaque fois qu'il y a eu invasion, guerre contre les Juifs, notamment Jérusalem, eh bien on a assisté à la destruction du temple, donc sa profanation. On entre dans le Saint des Saints, etc. Et on pique tout ce qui a de la valeur, et Dieu sait s'il y en avait. Donc, c'est arrivé aussi dans cette histoire-là. Imaginez la différence qu'il y a entre le tabernacle et le temple. Le tabernacle, bien sûr, il y avait aussi des objets de valeur dans le tabernacle, mais pas au point d'y amasser un trésor.
Je ne savais pas si j'étais malade.
D'ailleurs, les Romains ne se sont pas privés en septembre d'embarquer tout ce qu'il y avait, notamment l'or, l'argent, etc. Tout. Ça avait de la valeur. Et aujourd'hui encore, les archéologues prétendent, s'ils avaient la possibilité, faire des fouilles sous l'esplanade du temple pour trouver le trésor du temple. Parce que très souvent, lorsque Jérusalem était assiégée, on faisait disparaître notamment les écrits, donc tout ce qui était Torah était caché à droite à gauche, dans des amphores, dans des caves, etc. Et bien sûr, le trésor du temple, le maximum, tout ce qui n'était pas indispensable au culte, disparaissait. Et aujourd'hui, on cherche encore
l'Arche
cela.
L'Arche d'Alliance, on le voit dans le téléphone.
Oui. Bref. Donc, le temple est quand même quelque chose presque de dangereux, on pourrait dire. Que ce soit dans la version idolâtre ou que ce soit dans la version pillage et profanation. Et puis notre texte, alors avant d'arriver à la suite du discours qui commence avec Joseph, on a un dernier verset, assez intéressant je trouve aussi, où là on peut légitimement se poser la question, pourquoi parler de l'alliance de la circoncision ? Qu'est-ce que ça vient faire ? Autant on peut comprendre le rappel de qui était Abraham, de comment Abraham a vécu, et que moi je crois au même Dieu qu'Abraham, etc. Autant on se demande ce que vient faire la Brit Mila, pour reprendre le terme en hébreu, un rite qui était à la fois la condition, nous dit le texte, et le signe de cette alliance entre Dieu et Abraham. D'accord ?
Mais justement, c'est le signe de l'alliance. Donc Étienne nous dit qu'il fait partie. Participe.
Oui.
Il dit que vous êtes circoncis aussi.
Ok.
C'est l'alliance, c'est pas ça.
Très bien. Donc ça, c'est un bon début de réponse. Donc effectivement, pourquoi l'accuser d'être différent, d'être pratiquement non-juif, puisque tu blasphèmes, soi-disant, contre Dieu, alors qu'il est lui-même partie de l'assemblée. Il fait lui-même partie de leur fraternité. Du judaïsme, etc. Et donc la Brit Mila qu'il rappelle, donc la circoncision de l'Alliance, l'Alliance de la circoncision, pardon, est un acte qui consistait, vous le savez, à l'ablation totale du prépuce du pénis au 8e jour de vie.
Et bon, c'était quand même quelque chose... Enfin, et encore maintenant, c'est quelque chose de très important.
Exactement.
Pour les Juifs.
C'est presque quelque chose d'identitaire, on pourrait dire.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et on verra après, avec Paul, qu'ils ont décidé de ne plus l'imposer, mais c'est venu bien après.
Donc, en tout cas, c'était un signe.
C'était le, enfin, oui,
le signe pour Abraham.
Pour les hommes.
Pour les hommes, oui, oui. D'ailleurs, certains commentateurs disent... les femmes sont déjà circoncises. Quand même intéressant. Donc elles auraient plus de valeur, si vous voulez, que l'homme à qui il faut enlever quelque chose.
Ah bah dis donc.
Ouais.
Ça me fait plaisir d'entendre ça.
C'est des commentateurs. C'est dans le Talmud, mais bon.
Ça me change.
Donc.
Ça ne s'est pas répondu, ça.
Et puis, pour la petite histoire, il y a une étude scientifique qui a montré que la circoncision d'un enfant au 8e jour, pourquoi le 8e jour, pourquoi pas avant, parce qu'apparemment, c'est une découverte médicale, hein, jusqu'au 7e jour, il y a des risques souvent d'hémorragie, notamment par manque de vitamine K. Et donc, en attendant le 8e jour, on permettait de ne pas perdre, de ne pas faire mourir un enfant d'une hémorragie. Voilà. Mais bon, je repose ma question. Donc, que vient faire cet argument dans cette plaidoirie ? Alors, d'une part, il y a l'appartenance commune au peuple et à l'alliance, par conséquent. C'est aussi la circoncision, comme le dit d'ailleurs le texte, une marque inscrite dans la chair, comme une alliance perpétuelle, dit-on, ou éternelle. Hein. Ça, c'est, on trouve ça dans Genèse 17-13. Et au fond... Il faut mettre cette circoncision en parallèle avec la circoncision du cœur, qui est évoquée d'ailleurs dans l'Ancien Testament, notamment par les prophètes, je pense à Ézéchiel, Jérémie, qui appelle le peuple à plus que la circoncision, si vous voulez, parce que Dieu préfère de loin la foi et l'obéissance plutôt que des sacrifices rituels légalistes réalisés à contre-cœur. Donc il dit, au fond, il y a une forme plus spirituelle, une forme plus consacrée, qui est finalement de se consacrer soi-même, notamment par la circoncision, plutôt que de dire, je vais observer les règles, je vais appliquer la loi, et puis ça ira bien comme ça. Tout comme d'ailleurs Jésus reproche à certains de décréter quelque chose corban pour ne pas devoir... honorer son père et sa mère. Hein. Bon, voilà. Donc, il y avait toujours un moyen de contourner un peu les choses. Et donc là, ben, en s'engageant soi-même, on ne contourne pas les choses, on vit totalement les choses. En même temps, la circoncision, c'est la marque pour les 12 tribus d'Israël de l'appartenance à un seul et même peuple, alors qu'ils ne sont pas encore une nation. Donc, ils sont des tribus, ils forment un peuple, et la circoncision, c'est comme une marque bien imprimée qu'ils font bien partie de la même communauté, et notamment de cette même communauté qui honore un seul Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu de leur père Abraham. Mais finalement, je crois que la pointe de l'argument qui se cache derrière ce discours sur la circoncision, combiné avec ce qu'on s'est dit avant sur le reste du texte, c'est de montrer avec clarté à son auditoire, c'est-à-dire le Sanhédrin, que tous les éléments essentiels pour rendre un culte à Dieu étaient réunis avant l'existence de la tente de la rencontre, c'est-à-dire d'Abraham à Moïse, et bien avant le sanctuaire à Jérusalem, c'est-à-dire d'Abraham à Salomon. Donc comment a-t-on pu vivre sans cela, sans temple et sans tente de la rencontre, dans un vrai face-à-face avec Dieu, en rendant un culte à Dieu? Et donc c'est de nouveau une critique du système dans lequel se sont enfermés les Juifs sous prétexte d'observer la loi et puis d'appliquer ce que Dieu leur a demandé d'appliquer. Et qu'est-ce qui serait préférable alors si on reprend l'examen des différents arguments? Vivre nomade en observant les choses, c'est-à-dire obéir à Dieu, comme quitter Our par exemple, croire en Dieu, croire celui qu'on ne voit pas, par la foi. L'attachement à Dieu au niveau identitaire, je pense à la circoncision ici, l'engagement envers ce Dieu qui se marque dans ma propre chair par la circoncision. Donc c'est mon père et ma mère, et notamment mon père, qui me fait circoncire, mais en même temps, cette circoncision qui me donne une identité m'engage par rapport à mes pères et par rapport à Dieu. Vous voyez un petit peu tout le... Donc c'est ça qui fait la force du judaïsme aussi, c'est que ce n'est pas une religion, c'est une appartenance et une culture très complète, totale, mais qui ne peut pas se démarquer de Dieu. Donc c'est un judaïsme empreint de Dieu, si vous voulez. C'est pas possible dans cette culture de ne pas concevoir Dieu. Ok ? Donc voilà, l'attachement. Et puis je pense aussi que derrière toute cette critique se cache aussi ce dernier point. Rendre un culte à Dieu, c'est possible où que l'on soit. Donc on n'a pas besoin nécessairement d'un lieu fixe. Et ça peut même être hors de la terre promise. C'est le cas notamment des Juifs de la diaspora. Hein. En clair, le temple de Jérusalem n'est pas indispensable. Il est sous-entendu transitoire, temporaire, tellement bien temporaire qu'il disparaîtra d'ailleurs en 70, comme on le sait déjà. Mais ça ne nous empêchera pas de devoir revenir sur cette thématique du temple avec une des parties du discours liée justement à la critique qu'aurait faite Étienne du temple et de la manière d'adorer et de sacrifier, etc., etc. Donc, sous-entendu, critique assez... Alors, on ne peut pas dire qu'il critique frontalement. Hein, oui, c'est ça. Ce n'est pas frontal, ce n'est pas avec des arguments extrêmement dangereux, mais c'est quand même suffisamment critique que pour faire mousser l'auditoire. Donc, moi, je pense que l'énervement devait peu à peu monter en température.
Peut-être qu'il ne savait pas répondre là-dessus aussi, parce que ce qu'il disait...
Oui, jusque-là, il n'y a rien de faux dans ce qu'il raconte, dans tout l'attachement à Abraham, etc. Donc, il fait un sans-faute jusqu'au moment où, au verset 53, on verra que la coupe déborde. Bon, voilà. Mais en fait, derrière des arguments acceptables, se profile en tout cas une critique de ce qui se vit là au 1er siècle, dans la manière dont les Juifs utilisent le temple. Et je pense que Jésus a fait la même chose, entre nous soit dit. Hein. Voilà. Maintenant, je profite de cette section pour vous dire, je pense qu'on essaiera d'examiner dans la partie qui concerne le temple ce que tu as évoqué comme questionnement l'autre fois, C'est-à-dire, est-ce que le temple était un projet de Dieu? Est-ce que le temple était aux yeux de Dieu indispensable? Et si c'est le cas, pourquoi? Indispensable jusque quand? Et pourquoi faire? Bon, ça, je pense que ça sera assez intéressant de voir si la critique d'Étienne est encore plus virulente à ce moment-là au sujet du temple.
Est-ce que vous ne deviez pas chercher tous les deux quelque chose?
Oui.
Oui, je ne sais plus quoi.
Ben, au sujet du temple, justement.
C'était ça.
Le temple en tant que projet de Dieu, ou le temple parce que les hommes ne peuvent pas se passer de temple pour adorer, etc. On pourrait faire la même critique, d'ailleurs, avec les cathédrales. Pourquoi construire d'immenses cathédrales, belles au demeurant, formidables, hein, architecturalement, même spirituellement, pourquoi pas? Mais quand on sait que ça mettait parfois 50, 70, 100 ans pour construire une cathédrale, on peut se demander si c'est indispensable à l'adoration du vrai Dieu. Voilà. Donc au fond, est-ce qu'on peut adorer Dieu en pleine campagne, en pleine nature, ou est-ce qu'il faut nécessairement l'adorer dans un lieu? Si vous relisez l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu lui-même, dans les prophètes, critique cette idée d'un temple, d'un lieu. Ai-je besoin d'un lieu? C'est sa question à Dieu. Sous-entendu, ben, j'ai accepté pour vous faire plaisir, parce que vous voulez un lieu. Mais moi, je n'ai pas besoin de cela. Moi qui suis le Dieu de l'univers, t'imagines bien. Et pourquoi la critique de Dieu? Alors, je vais jusqu'au bout de mon argument. Critique de Dieu là-dessus, parce qu'au fond, au travers du lieu, qui n'est pas une tente qu'on trimballe, au travers d'un lieu fixe, c'est comme la mainmise sur Dieu. Les hommes se donnent des droits sur Dieu. Et ça, c'est pas possible. Dieu peut pas accepter. Donc finalement, si Dieu laisse le temple se détruire en 70, c'est peut-être aussi à cause de ce qu'Israël en a fait.
Il y a une différence entre aussi avoir un lieu de reconnaissance pour Dieu et en faire une cathédrale, en faire un luxe, parce qu'un lieu, pourquoi pas? C'est un endroit pour se retrouver, se concentrer, essayer. Pourquoi pas?
Oui, tout à fait.
Mais de là en retirer puissance, comme tu dis, ou impact sur Dieu, ou richesse, ou quoi. Là, c'est autre chose.
Bien sûr.
Bien que le temple était luxueux. Hein.
Oui,
tout à fait. Voilà, c'est ça.
Tous des produits de...
De luxe, exactement, de toute la...
Maintenant, ils vont dire...
De tout le Moyen-Orient.
Dieu mérite bien ça, hein. Tellement grand.
Le tabernacle, qui était déplacé de lieu en lieu dans le désert, il était déjà richement décoré.
Oui.
Les tissus...
Tissus, même les chérubins, l'Arche de l'Alliance.
Et on en passe, hein.
Le but, c'est justement de ne pas adorer l'endroit, tu vois. Tu fais un transfert. Tu vas vers l'endroit et tu adores l'endroit, tu n'adores plus le Créateur. Et quand on change quelque chose, on change de chaise ou de couleur de tissu, les gens ne se retrouvent plus dans leur temple. Ils disent « qu'est-ce qu'on a fait ?» quoi, tu vois. On ne va pas pour adorer Dieu, on va dans un endroit pour se rassurer.
Et au sujet du temple, la critique de Jésus était encore plus virulente. Hein. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça veut tout dire de ce qu'était devenu la fameuse institution qui aurait dû servir à la piété, tu vois. Oui, alors je crois que le petit peuple, lui, était resté très pieux. Continuait à observer la loi, les sacrifices au temple, mais ceux qui gèrent tout ça n'ont pas la piété du petit peuple, en tout cas.
Ils sont corrompus.
La plupart. Oui. Voilà, je crois qu'on peut, je ne sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'on va rester là pour ce soir.
Oui.
Donc je...
Mais non, heureusement que tu n'avais pas préparé, tu avais bien fait.
Non, mais je me suis rendu compte que c'était énorme.
C'est énorme, ben oui.
Si tu veux lire chaque texte de l'Ancien Testament en relation avec ce qui est cité là, etc., comprendre le discours d'Étienne, pourquoi il attaque comme ça, bah, il fallait du temps, quoi. Donc, prochaine fois, on finira donc le 9 à 16, plus les applications. On essaiera de faire comme ça. Et après, il y aura une autre partie du discours. On continuera, quoi. Ok. Est-ce que, Bernard, tu veux terminer?
Oui.
Par la prière.
Si je peux juste dire quelque chose. La semaine passée, tu avais parlé aussi... ça m'a fait réfléchir. Très courtement, tu avais parlé des 40 ans dans le désert. Et j'ai retrouvé un verset. Et ça m'a vraiment sidéré de la part de Dieu. C'est une bénédiction que j'aimerais vraiment vous partager. Le désert n'est pas la punition. C'est les 40 ans dans le désert qui sont les conséquences de la désobéissance. Mais il y a un seul verset, un ou deux, deux versets qui se suivent, où il est montré, où il est dit que Dieu les fait partir dans le désert et non pas le chemin tout droit le long de la côte vers les Philistins. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient été incapables de supporter les guerres, que dit Dieu. Et donc c'est par bienveillance que Dieu conduit dans le désert. Et Dieu sait tout, il n'a pas été surpris. Son but aurait été que le désert soit traversé le plus rapidement possible pour arriver à Canaan. Mais par la désobéissance, ils ont traîné 40 ans dans le désert. Mais le désert était la route de la bénédiction. Et ça m'a sidéré. Et ça me fait penser que souvent, quand on est dans l'épreuve, on dit au Seigneur, j'en ai vraiment pas envie, hein, ça c'est dur, hein, tu pourrais m'éviter ça. Ça je ne supporte pas, j'aimerais bien quelque chose de plus facile. J'aimerais bien aller au chemin, au but direct, prendre le chemin tout droit. Non, si Dieu nous envoie par le désert, c'est parce qu'il sait quelque chose que nous on ne sait pas. Et ces deux versets, qui m'ont vraiment réjoui, et qui m'apprennent à aussi accepter, quand tout ne va pas comme je voudrais bien, que Dieu en connaît les raisons. Et que dans ce chemin difficile, il faut que je reste droit avec le Seigneur pour éviter de tourner en rond. Et ça, c'est fantastique, parce qu'on pense toujours au désert, 40 ans, la désobéissance, c'est vrai, mais le désert n'était pas... c'était la volonté de Dieu.
Tout comme Abraham, la pérégrination d'Our jusqu'en Canaan, le vie nomade en Canaan, pas de promesse réalisée de son vivant, croyance dans une descendance, ben c'est énorme. Quoi. Donc c'est marrant, mais cheminer avec Dieu, c'est pas la voie royale nécessairement.
Non.
Mais c'est la loi la plus sûre, le chemin le plus sûr. Ok, merci beaucoup.
On peut prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous est expliquée, pour le fait que nous pouvons plonger le regard dedans. Seigneur, nous reconnaissons tous ici que nous l'aimons, qu'elle est précieuse pour nous, quelle est ta parole, quel est ton message que tu veux nous communiquer, quel est comme un père qui nous enseigne jour après jour. Père éternel, nous te louons parce que nous y trouvons la vie, parce que nous y trouvons ton amour, ta bénédiction. Merci aussi, Père, parce que nous y trouvons l'assurance que tu nous appelles tes enfants bien-aimés et que nous pouvons vraiment avoir confiance que tu as un regard bienveillant sur nous. Seigneur, merci pour ces promesses que tu as faites à Abraham, pour cette foi de cet homme qui a tout consacré pour toi. Seigneur, merci pour le fait que nous sommes par la foi appelés la postérité d'Abraham. Seigneur, on ne le mérite vraiment pas. Et il nous a été rappelé aujourd'hui que c'est toi qui diriges tout dans nos vies. C'est toi qui es à l'origine de tout, Seigneur. Que nous n'avons aucun mérite. Que si nous croyons en toi, c'est par pure grâce, parce que tu nous as parlé, tu nous as touché, tu nous as convaincus de qui tu étais, Seigneur. Tu nous as permis qu'on puisse comprendre que nous étions pécheurs, qu'on avait besoin d'un sauveur. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tout vient de toi. Même la chemise que j'ai sur moi vient de toi, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à garder cet esprit, cette pensée, cette croyance, cette conviction, Seigneur, que tu es au-dessus de tout, que tu surpasses tout et que nous ne sommes que l'œuvre de tes mains, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous rebeller, aide-nous à ne pas imposer notre volonté, mais à t'adorer. Seigneur, je te demande de garder aussi chaque participant de cette étude, de garder nos familles, de garder nos proches. Seigneur, nous te demandons de continuer de travailler dans les cœurs, et nous savons que tu le fais. Et Seigneur, quand nous sommes dans le désert, quand c'est difficile, et tu le sais toi-même, combien d'épreuves sont parfois pénibles pour nous, Seigneur, aide-nous de nous attacher à toi, de voir que tu vas prendre tout en main, d'espérer en toi, Seigneur. Et que ton nom soit béni, Seigneur, pour ton Fils que tu as envoyé pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.